J'ai réussi totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai essayé de vous combattre au cas d'engage. Je pense qu'on peut entendre dans les deux affiches de mes présidents trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. La communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBCA, appelle la communauté internationale à diligenter une enquête internationale sur les massacres de Beni dans le Nord Kivu. Selon les chargés des programmes de la Commission Justice, Paix et Sauvegarde au sein de la CBCA, dans le Nord Kivu, il serait mieux que la CPI puisse s'occuper de ces massacres avec l'implication de l'ensemble de la communauté internationale. Le but, mener des enquêtes qui pourront permettre de faire la lumière et établir les responsabilités dans ces tueries à répétition. Certains observateurs estiment que l'action de la CPI peut contribuer à mettre fin à ces massacres. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Julie César Bongonda est au standard. Paul Badenyama est à la mise en onde. Diro et la Mégie à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo, Lwabung, Angie, sous la supervision de Martin et Sebou Jalgué. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci beaucoup à Hippolyte Kapanga qui assure la mise en œuvre de ces programmes. 1200 morts et 1400 kidnappés en 2 ans, c'est le bilan macabre donné par cette structure citoyenne. Donc je parle de la société civile de Beni qui exige d'ailleurs des enquêtes de la CPI. Nous recevons en ligne Maître Emmanuel Okundji, avocat à la Cour d'appel de Mbandaka, qui est notre invité. Maître, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que c'est vraiment opportun de déclarer ou de diligenter cette enquête?
Absolument, Gilles. Parce que ce qui se passe à Beni est inacceptable. Tu sais, les gens sont tués, les gens sont kidnappés, 1200 morts, 1400 kidnappés. Ça ne va pas continuer comme ça. Il faut que tout le monde assiste à trouver une solution pour cette fois à Beni. Et nous pensons d'ailleurs qu'on a intérêt à ce que la solution vienne de quelque part. Elle peut venir du gouvernement, elle peut venir de la société civile, elle peut aussi venir de ce pays. Nous pensons que cette initiative devrait être bien acceptée par tout le monde et nous l'encourageons totalement.
Alors, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire et confirmer, parce qu'il y a parmi des inquiétudes des uns et des autres, disons, qui vont dans les sens, si réellement notre cour, par exemple, d'appel, ne serait-elle pas capable de pouvoir enquêter et aussi n'aura pas la compétence de juger ce genre de crimes?
Nous disons que toutes les solutions sont de bienvenues, toutes les solutions sont de bienvenues. Si la cour d'appel peut le faire, tant mieux. Mais nous constatons que ça commence à durer. Donc nous pensons, de toute manière, la CPI est compétente pour des infractions qui ont été soit pas été jugées ou qui n'ont pas pu être bien jugées. Alors, si la CPI peut contribuer à trouver une solution, pourquoi pas? Nous pensons que la solution peut venir soit des montres de justice ou de la lutte internationale. C'est la même chose. Mais nous pensons que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait une enquête internationale dans cette affaire.
Alors, on regarde la situation qui avait prévalu, par exemple, à RCA, qui avait conduit d'ailleurs l'arrestation de Jean-Pierre Bemba à la CPI. On se rend compte qu'aujourd'hui, la CPI ne condamne que les auteurs intellectuels et non les auteurs matériels. Est-ce que nous ne risquerons pas, par rapport à cette requête formulée par la société civile, qu'on se retrouve en fait dans la même situation que les auteurs intellectuels, comme l'a si bien dit le bureau du procureur, de détenir des informations sur les tueries des Béni? Sûrement, ce bureau a des informations claires sur des auteurs intellectuels.
Bon, on n'est pas dans le secret de la CPI, mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'est pas interdit à une cour de condamner les auteurs intellectuels.
Donc on peut condamner les auteurs du reste, tout matériel, mais aussi on peut aussi condamner les auteurs intellectuels. Si on condamne les auteurs intellectuels, tant mieux. Mais pour nous, la situation est que ce qui se passe à Berry doit s'arrêter. On ne peut plus continuer à accepter qu'il y ait autant de tueries hier.
Mais est-ce que ce sera facile d'identifier des auteurs matériels? Parce qu'on dit la situation elle est tellement confuse, les gens opèrent mutuellement, parfois en tenue civile, d'autres opèrent aussi en tenue militaire, mais on ne sait pas identifier par rapport aux propos des uns et des autres, surtout au niveau du gouvernement, qui évoquent parfois la radicalisation de certaines personnes, ou encore l'incursion qui serait due à une incursion des djihadistes. Voilà. Donc autant de confusion autour de cette question. Est-ce qu'il sera possible et facile de pouvoir mettre la main sur les auteurs matériels?
À ce niveau, on demande des enquêtes. Nous pensons que ce sont des enquêtes qui pourront déterminer la suite. On ne veut pas envoyer quelqu'un en procès pour l'instant. On commence par des enquêtes. Et nous pensons que l'initiative là est très bienvenue, qu'on commence par des enquêtes, qu'on commence par déterminer les uns et les autres. Nous ne trouvons pas d'inconvénients. Nous pensons d'ailleurs que la CPI peut être mieux outillée pour mener ces enquêtes. Alors, s'ils peuvent commencer des enquêtes là, on pourra donc connaître si on peut envoyer tel ou tel autre en procès.
Voilà, merci beaucoup, maître. Nous vous gardons en ligne, maître Okundji Emmanuel, avocat après la cour d'appel de Mbandaka. On va accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints d'ailleurs dans ces débats. 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous avons Kevin de Mbandaka. Kevin, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous venez de suivre notre invité tout à l'heure et aussi, lorsque nous annonçons le sujet, la communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBCA, qui appelle la communauté internationale à diligenter une enquête internationale sur les massacres des Béni dans le Nord Kivu. Est-ce que vous estimez, comme les autres, que c'est vraiment opportun de diligenter cette enquête par une cour internationale?
En fait, moi, je ne prends pas, je ne comprends pas cette façon d'interpeller de la même manière que les autres, peut-être, parce que il serait mieux de dire que la communauté internationale doit s'imprégner du dossier dans le sens de savoir si réellement il y a eu des tueries et essayer de donner des propositions à ce moment-là, non à la CPI. Mais plutôt, il faudrait commencer par l'État congolais. Parce que les crimes se sont commis sur le sol congolais, et les Congolais, l'État congolais est le responsable premier à réprimer les crimes internationaux commis sur son sol. Alors, en disant ceci, c'est pour démontrer que la Cour pénale internationale n'avait pas été créée pour venir remplacer les juridictions nationales. La Cour pénale internationale est là de façon à jouer un rôle un peu plus complémentaire. C'est pour cela qu'on parle du principe de la complémentarité qui régit la CPI. C'est-à-dire que, avant que la CPI puisse intervenir, il doit constater dans les chefs de l'État concernés qu'il y a la volonté ou le manque de moyens à poursuivre les infractions internationales commises sur le sol de cet État-là. Mmh. Alors, dès lors qu'on n'a pas eu à constater cela, parce que vous connaissez très bien avec moi que ici, tout ça, les événements de 19 et 20 décembre, il y a eu déjà des répressions. Alors, pourquoi ne pas avoir aussi des répressions pour les tueries de Beni? C'est-à-dire qu'il faut un minimum de temps. Pour aussi constater qu'il y a eu, qu'il y a le manque de volonté ou de moyens à poursuivre, il faut un certain nombre de temps pour les constater. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous êtes avec moi. C'est avec moi la situation de Bemba, lorsqu'il n'avait pas il devrait condamner les gens qui avaient commis des crimes au niveau de Centrafrique. Il y avait eu un temps, mais vu qu'on avait constaté que des crimes étaient un peu dérisoires, si vous voyez, la CPI s'était engagée à poursuivre. Donc la CPI ne devait pas intervenir sans que l'État congolais puisse faire un geste. En plus, c'est aussi mieux que l'État congolais puisse s'imprégner parce que nous sommes ici, les juridictions sont ici, ils vivent la situation de près. La CPI est très loin, C'est pour cela que vous avez dit avec l'invité qu'il est difficile. Il est difficile de se saisir des auteurs matériels. On prend beaucoup les auteurs intellectuels parce qu'ils ne sont pas, ils sont très loin d'ici. Mais la juridiction congolaise qui est ici, il a cette capacité-là.
Oui, Kevin, nous avons tous suivi le porte-parole du gouvernement qui affirme que jusque-là, l'État congolais n'a pas encore saisi la cour. Mais de l'autre côté, il y a le bureau du procureur qui dit détenir déjà des informations sur les tueries de Beni. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que ne craignez-vous pas que, aussi longtemps qu'il n'y aura pas une requête déposée en bonne et due forme par les gouvernements, dans ces pays, il n'aura pas droit, peut-être, à enquêter? Quant à eux.
L'État congolais n'a pas, dans un premier temps, une obligation de saisir la cour, non. Il a d'abord l'obligation de s'imprégner du dossier, de poursuivre les auteurs et d'accorder des sanctions. C'est ça le rôle de l'État congolais dans cette matière-là. Mais c'est juste au moment où l'État congolais n'arrive pas, ou ne veut pas sanctionner, que la CPI peut être saisie par l'État congolais. On sait bien qu'elle a pu saisir les trois manières. Soit c'est l'État qui saisit, soit c'est le secrétaire général le secrétaire général des Nations Unies, le conseil de sécurité, et ainsi de suite, et le procureur. Et maintenant, si le procureur ne se prenne pas du dossier, pour que le procureur se prenne du dossier, il faut qu'il puisse
collaborer.
C'est ce que j'ai appelé la volonté ou manque de moyens. Mais dès lors que l'État congolais n'a pas encore saisi, il a encore ce monopole-là de sanctionner ces crimes internationaux, bien que ça rentre dans le cadre de compétences de la CPI. Voilà.
Alors, il y a une autre question aujourd'hui. Est-ce qu'à ce jour, Kevin, vous pensez comme les autres que nous avons suffisamment notre justice qui pouvait aussi traiter ces genres de crimes? Parce qu'aujourd'hui, personne n'a pu identifier la nature des crimes qui sont commis jusque-là à Beni.
Alors,
ça, c'est une guerre civile, c'est une agression.
Il n'a pas de mode d'opération des ADF, par exemple. Il n'a pas de la composition des ADF, parce qu'il est composé en même temps des Congolais, des Ougandais et des autres pays limitrophes. Il y a possibilité d'établir tout genre de crimes relevant dans le cadre de la compétence de la Cour pénale internationale, que ce soit l'agression, que ce soit les crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, n'empêche. Mais le problème, c'est que on ne doit pas s'attarder à dire que l'État congolais ne peut pas, ou soit n'a pas, soit ne veut pas, ou soit n'a pas la possibilité de sanctionner ce genre de crimes, parce que je vous rappellerai que la première juridiction à appliquer les statuts de Rome, c'était en RDC, et ici, en Mbandaka, c'est toujours le tribunal militaire des garnisons de Mbandaka. Donc, il y a possibilité de sanctionner, il y a moyen de sanctionner, parce que ça ne demande pas assez de moyens, vu que les choses se sont passées ici, en RDC. Alors, pour établir les responsabilités, c'est aussi facile, parce qu'on sait maîtriser les ADF. On sait comment les ADF sont composés. S'il s'agit des étrangers, on sait que ça peut être des personnes, mais avant tout, pour qu'il y ait agression, il faut établir un acte d'agression. Maintenant, il faut savoir quelle est la position de l'ONU sur ce fait-là, parce que c'est les Nations Unies qui doivent d'abord constater qu'il y ait un acte d'agression pour qu'il y ait crime d'agression. Il y a d'abord aussi que
avant qu'on accorde la parole à Sylvain. Oui, mais Kevin, vous avez identifié en fait des auteurs en parlant des ADF Nalou, mais on sait tout de même que aujourd'hui il y a d'autres voix qui s'élèvent pour dire que il y a pratiquement le terrorisme qui se radicalise. Hein. On parle même des djihadistes qui ont fait les récursions là-bas à Beni pour tuer. Alors là, vous parlez de deux auteurs différents, ADF et des djihadistes. Ça sera pratiquement difficile pour que l'enquête soit menée en bonne et due forme.
Ça sera difficile si c'est la communauté internationale qui veut s'imprégner, notamment la CPI. Parce que la CPI n'est pas sur terrain. Et ça sera facile si c'est l'État congolais, parce que l'État congolais a les choses en main. Si l'État congolais n'arrive pas à le faire, c'est simplement parce qu'il ne veut pas.
Merci beaucoup, Kevin. Pour vous, ça sera très difficile pour la communauté internationale de mener à toute indépendance cette enquête, parce que l'État congolais connaît toutes les informations possibles sur cette question. Merci beaucoup. Alors, Sylvain, vous avez raison, vous êtes à Bounia. Bonjour, Sylvain.
Oui, bonjour. Bonjour. voudrais d'emblée transmettre ma compassion vis-à-vis de notre patriote de Beni et par la même occasion transmettre cette même compassion à tous les Congolais puisque Beni fait une partie de la République. Alors lorsque vous soulevez cette question, monsieur, c'est d'abord que je vous dis une chose, c'est que c'est pratiquement une répétition de ce qui s'est passé chez nous en Ituri. Je vous parle, je suis à Bouya, l'histoire étant de l'Ituri, essaye de se dérouler dans cette partie de Beni. Alors vous posez de très bonnes questions autour de cette émission sur la requête, ou je dirais la saisine par la CDK, à ce qu'une enquête internationale soit faite sur ce qui se passe à Beni. Et de l'autre côté, la maire Mende, le ministre des Communications congolais, dit que la CDK n'a pas droit. Et donc ceci relève une étude à double dimension. Ça veut dire si le plan fond ou si le plan forme. Et lorsque nous parlons du fond, ce sont des crimes qui sont effectivement commis dans cette partie de la République. Et lorsqu'on parle maintenant de la forme, c'est la question de la procédure engagée, n'est-ce pas, dans la tête de cette situation de ce qui se passe à Beni. Alors, laissez-moi vous lire correctement ce que dit l'article, les articles 14 et 15 des statuts de Rome. L'article 14 dit clairement à ce qui concerne les renvois d'une situation par un État parti devant la Cour, c'est que tout État parti peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant des compétences de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devaient être accusées de ces crimes-là. Donc ça, c'est ce que le premier auditeur venait de dire tantôt, c'est que lorsque un État prend l'engagement de pouvoir déférer la situation qui s'est commencée en pays, et saisit la Cour par les mêmes faits pour une réparation pour une réparation attendue. Alors là, monsieur le journaliste, il faudrait que nous soyons d'accord sur la notion qui est liée au concept de l'État. Puisque aujourd'hui, l'État est composé en principe de deux grandes entités. Il y a ce qu'on appelle les entités institutionnelles, étatiques ou publiques, mais il y a aussi ce qu'on appelle les institutions, ou disons, les entités composées par des institutions non étatiques. Et dans les institutions non étatiques, il y a ce qu'on appelle les ONG, ça veut dire les organisations non gouvernementales, il y a ce qu'on appelle les églises, il y a ce qu'on appelle les associations culturelles, il y a ce qu'on appelle les personnalités influentes qui, de par leur rôle qu'ils jouent dans la société, essayent de transmettre un changement dans les pays. Et donc dans ce cadre-là, sur le plan de forme, hein, donc la CDK était à plein droit comme une grande communauté qui loge à Beni, de pouvoir saisir non seulement la CPML, toute la communauté internationale, pour que les yeux soient tournés dans la commission de certains crimes, n'est-ce pas, dans cette partie-là. Et donc, l'intervention du premier du ministre des Communications, M. la maire Mende, c'était vraiment non avenu et n'a pas vraiment son sens d'être.
Oui.
Ça, c'est une précision. Deuxième chose,
oui.
Lorsque nous rentrons maintenant dans l'article 15 du même statut, qui parle du procureur de la Cour, on dit ceci. Le premier alinéa, le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Je m'arrête seulement là-bas, parce qu'il y a plusieurs éléments. Alors, lorsque vous lisez ces éléments-là, messieurs les journalistes, il est clair, et ici, je prends en témoin la communauté de l'Ituri par rapport à ce qui s'est passé chez nous, lorsqu'il y a eu les rébellions qui ont travaillé chez nous ici, nous avons vu vite, et c'était d'ailleurs pendant la période où la Cour était en train d'entrer en action, les gouvernements congolais, par l'entremise de l'ancien du président Kabila, à l'époque président de la transition, qui a saisi la Cour pour que la Cour vienne enquêter si les crimes prétendument commis à l'Ituri.
Oui, Sylvain, c'est vrai, vous évoquez l'histoire, nous sommes en 2003-2005, il y a quand même une différence par rapport à la situation aujourd'hui. Et c'est vrai, en 2003-2005, il y avait d'une part l'armée EMA, et de l'autre, l'armée EMA de l'UPC de Thomas Lubanga, et les Lendu du RPI de Germain Katanga, et les Ngirti du FNI du Maxime Goujonov. Alors, tous étaient sous mandat d'arrêt à la CPI. Mais pour le moment, avec les ADF Nalou, on n'en connaît pas les commandements. Ils vivent dans la forêt, ils font des incursions. Et c'est là où j'ai dit ça risque de compliquer un peu l'enquête.
Non, messieurs les journalistes, il faut d'abord dire ceci, c'est qu'il n'y a pas question de compliquer l'enquête. Moi, je vous ai dit sur votre adresse, c'est votre adresse Facebook, c'est que la physionomie de la rébellion, si c'est pas de notre côté, est bien identifiée. Donc, lorsque l'on sait déjà identifier les armes qui se battent à Béni, donc avec des enquêtes sérieuses, puisqu'il est clairement stipulé dans le statut de Rome, c'est que les enquêtes doivent être sérieuses, les informations qui doivent permettre que la poursuite soit engagée contre les auteurs prétendument d'un crime commis, des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour soient enquêtés. Donc là, je suppose que les informations sont documentées, les données sont fiables.
Mmh.
Alors, renseignez-nous quand même, messieurs les journalistes, que la situation à l'est du Congo laisse présager pratiquement la température sécuritaire, non seulement en RDC, mais dans la sous-région, et je dirais même dans la région de la
centrale
et de l'Est. Et lorsque l'on se rend compte de ce qui se passe aujourd'hui à Béni, l'on essaie d'identifier les artères majeures, il ressort clairement que l'identité, ou ça, les identités des artères sont des rébellions RD congolaises, des rébellions étrangères, d'ailleurs, qu'il faut bien identifier. Je n'ai pas ici la capacité de citer tel pays, disons un pays, mais je dis que lorsque le bureau du procureur attaque enquêteur principal, d'ailleurs, qui est enquête en charge et à décharge, se déploie ce déni. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une difficulté si l'on est guidé par l'esprit de retracer la vérité dans la commission des enquêtes.
Mmh.
Et c'est là où moi je dis ceci. Si il s'avère que la RDC est partie prenante de la cour des parties de Rome,
mmh,
et il est tout à fait normal, et même si ce n'est pas l'État congolais qui a sollicité de la cour de venir enquêter, que cela soit fait par une institution, ce n'est pas l'État congolais, c'est obligatoire que l'État congolais donne son soutien. Et l'État congolais accepte cette enquête pour que l'État congolais ne soit pas aussi pris à partie avoir peut-être commandité la commission de ce crime-là. Mais on aurait pu voir la volonté de l'État congolais à pouvoir redresser la chose, n'est-ce pas, pour que désormais la vérité soit donnée au bon jour. Donc moi je pense
qu'il n'y
a pas une question de difficulté.
Voilà, merci beaucoup. Vous sollicitez, donc vous plaidez pour l'accompagnement du gouvernement congolais dans cette affaire, si réellement tout le monde a cette volonté d'établir les responsabilités dans cette tuerie à répétition. Est-ce que Franck partage cet avis? Franck, vous êtes avec nous à Kinshasa? Voilà, Franck, vous êtes avec nous.
Oui, je suis là, bonjour.
Voilà, bonjour Franck. Est-ce que vous partagez cet avis? Il faudrait une volonté politique, il faudrait un accompagnement du gouvernement congolais dans cette affaire pour que, qu'on puisse réellement établir les responsabilités dans cette tuerie à répétition.
Oui, tout à fait. Monsieur le journaliste, vous savez que l'histoire et le temps sont pris comme les instants d'évaluation et aussi de compréhension de ce qui se passe dans la vie des hommes. Il y a des situations qui nous arrivent, dont certains sont soit victimes ou encore bénéficiaires. Et quand de telles situations arrivent, le bénéficiaire de son côté cherchera à tirer des systèmes et souhaitera que cela perdure, alors que le vœu de la victime serait aussi de voir la justice agir afin de le rétablir dans ses droits et prérogatives les plus fondamentaux. Ça, c'est un accord de principe pour les gens qui ont le sens du bien. Mais par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays, surtout à Béni et ses environs, ça dépasse parfois l'entendement humain. Et quand on suit l'actualité de ce qui se passe là, quand on cherche à entrer en contact avec certains compatriotes qui habitent dans les environs, quand on voit avec quelques sadismes et cruautés et à base desquels ces crimes et tueries sont commis, ça serait vraiment injuste et inhumain que tous ces crimes restent impunis. Et si la CPI cherche à s'occuper de ce dossier, personnellement, je crois que les citoyens congolais les plus avertis et les citoyens congolais qui aiment leur pays ne pourraient que recommander notre gouvernement de s'impliquer dans les dossiers afin que la justice puisse être rendue à tout le monde, quoi. Messieurs les journalistes, nous avons suivi ce qui s'est passé ici à Kinshasa en janvier 2015, le 19 et le 20 janvier, je crois, ou du 19 au 21. Nous avons suivi ce qui vient de se passer il y a juste quelques semaines. Et si notre État est en mesure de sanctionner ce qui se passe à Kinshasa, si notre État est en mesure de sanctionner ce qui se passe dans certains coins du pays, pourquoi notre État ne serait-il pas en mesure de maîtriser ce qui se passe là-bas? C'est vrai que vous avez parlé de la situation qui est tellement confuse, mais je crois que la situation devient confuse quand il y a des ramifications internes et externes. Parce que si tous les Congolais doivent dire non à ce qui se passe là, et surtout si les décideurs doivent dire non, on pourrait quand même trouver des solutions. Mais dans la mesure où il y a des grandes complicités internes, externes, à plusieurs niveaux, ça devient difficile. Et je crois que si la CPI arrive maintenant à s'imprégner du dossier, c'est pour dire que notre gouvernement a quelque part montré ses limites pour ne pas être en mesure de bien gérer de tels dossiers.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui envoient des messages par rapport à cette question sur la confusion qui règne dans cette situation, en nous rappelant un peu de cette incompréhension, si on peut appeler ainsi, lorsque le gouvernement ne parlait pas le même langage avec une certaine communauté internationale. Voilà, donc pour la question sur les commandements de l'armée au niveau du Nord Kivu, notamment pour la question de Beni, et la communauté internationale qui demandait à ce que les certaines autorités militaires ne puissent pas prendre le commandement. Alors, il y a eu quand même les accords, il n'y a pas eu accord entre les deux parties. Est-ce qu'on peut, dire que, effectivement, c'est ces éléments prouvent à suffisance qu'il y a effectivement cette confusion?
Il y en a, monsieur le journaliste. Vous savez que si on peut d'abord encore se répéter, l'État, parmi ses attributions régaliennes, les plus fondamentales, il y a aussi la sécurité et la libre circulation de ses citoyens. Alors, si un État n'arrive pas à répondre à l'une de ses prérogatives, c'est déjà quelque chose de déficitaire. Et par rapport à ce qui se passe là, je crois que nous devons aussi nous mettre d'accord et dénoncer la gamme de complicité. Je dis bien la gamme et la ramification de complicité interne et externe. Et ça devient confus parce que, justement, il y a aussi nos propres compatriotes congolais qui tirent des ficelles de ce qui se passe là. Alors, si les Congolais eux-mêmes sont déjà impliqués dans les dossiers en cherchant à couper du tort aux autres Congolais, ça devient difficile. Même la CPI peut venir s'imprégner du dossier, mais tant qu'il y aura des mainmises de tels, ça sera toujours difficile. Alors, je crois que nous, Congolais, nous devons arriver à nous regarder en face et nous poser des questions essentielles. Est-ce que c'est vraiment ça l'amour de la patrie? Organiser des coups bas, organiser des tueries à répétition afin de tirer ces ficelles comme ça. Il y a plusieurs manières de chercher à s'enrichir, mais ce qu'on doit seulement s'enrichir sur le sang et les dos des pays des citoyens.
Voilà, merci beaucoup.
C'est vrai, mais c'est confus pourquoi? C'est parce que justement il y a des gammes de complicité et des ramifications mafieuses. Et c'est tout ce que nous devons toujours dénoncer quand il y a des interventions, quand il y a des émissions qui s'organisent sur cette thématique.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Kinshasa 081-890-63-15 pour votre intervention directe.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioTapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, Parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioTapi.net, la radio en différé à votre service.
Voilà, Maître Kouji, Emmanuel, vous êtes avec nous en ligne. Maître Kouji ? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Maître Kouji qu'on pourrait retrouver d'un moment à l'autre. Le temps de poursuivre cette émission avec vous, Maître Serge. Vous êtes à Kamina, mais tout en disant également merci à vous tous qui nous avez envoyé vos messages et ceux qui nous suivent d'ailleurs en direct tout à l'heure sur la radio RCK Kolwezi, de Akalemi, pardon, Radio Mungu, avec Prince Munga qui nous a d'ailleurs écrit, Baouda qui est le DG de cette radio communautaire. Merci beaucoup. Alors, Maître Serge, vous êtes à Kamina, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio qui nous écoutent à ce moment.
Quel est votre avis, Maître Serge?
Oui, mon avis, moi je vois que le problème était très simple. Je suis en train d'abord d'encourager ça. Et les militaires, les civils là qui quittent leur pays, ils sont bien identifiés avec l'armement ougandaise et rwandaise. Leur président ne parle absolument rien. Alors il fallait seulement sanctionner Kagame et le président là, ougandais, en tout cas avec moi, je croyais qu'on pourrait trouver une solution par rapport à ça. Puisque Mbemba, tant qu'il est sanctionné, il n'a jamais été en RCA. On a dit que c'était ce militaire qui était sanctionné là-bas. Mais Mbemba a été sanctionné pour ça. Il fallait seulement sanctionner. Et quel pays s'appelle cet ancien président-là? Vous verrez qu'on va trouver une solution. C'est massacré, mais en tout cas, n'auront plus vraiment la source de notre côté là. Et puis, nous devons indiquer aussi nos enfants là-bas. Ces gens-là viennent, ils ouvrent leurs propres frères et ils les gardent dans leur maison après avoir opéré, on laisse quelque chose, on s'en va pour tuer votre frère, votre ami. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je suis en train d'encourager que ces gens-là, en tout cas, ils viennent.
Est-ce que vous pensez, maître Serge, que cette requête de la société civile pourrait réellement aboutir et établir et permettre d'établir les responsabilités dans ces tueries à répétition?
Oui, oui, en tout cas, il n'y a même pas d'inquiétude. Ça peut trouver solution, je vous dis, vraiment fait.
Oui, mais parce que selon certaines sources, il y a quand même une confusion dans cette affaire.
Bon, il y a une conclusion ou quoi, mais ce que nous voudrions, c'est quoi? Il faut d'abord qu'on prenne en otage ces deux présidents-là. Là, vous verrez qu'on va tout dire, en tout cas, ça n'aura plus vraiment de son des choses de l'autre côté-là. Ce sont ces présidents, ils savent.
Oui, mais il y a un de vos prédécesseurs qui a dit qu'il faudrait également la volonté de l'État congolais pour saisir réellement la Cour pour cette affaire et chercher réellement qu'on puisse établir les responsabilités.
Si l'État congolais a failli quelque part là, alors que la CPI y tienne, on prend ce matin des présents là en otage, vous verrez que, avec ce que je vous dis, même le petit qui est encore dans le ventre de sa maman, c'est que celle qui est en train de dire, c'est la réalité toute nuit. On prend en otage tous ces deux présents là, vous verrez que ça va prendre fin.
Voilà, merci beaucoup, maître Serge. Le temps pour nous de retrouver maître Okunji et également d'autres auditeurs qui vont nous rejoindre dans cette émission. Nous vous rappelons, chers auditeurs, si vous nous prenez en compte donc, de cette émission, que la communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBCA, appelle la communauté internationale à diligenter une enquête internationale sur les massacres de Beni dans le Nord Kivu. Selon les chargés des programmes de la commission justice, paix et sauvegarde au sein de la CBCA dans le Nord Kivu, il serait mieux que la CPI puisse s'occuper de ces massacres avec l'implication de l'ensemble de la communauté internationale. Le but, c'est de mener des enquêtes qui pourront permettre de faire la lumière et établir les responsabilités dans cette tuerie à répétition. Alors, certains observateurs estiment que l'action de la CPI peut contribuer à mettre fin à ces massacres. Alors, qu'en pensez-vous? Nous en débattons donc. Vous serez tous les bienvenus dans cette émission où nous avons dit en début qu'il y a 1200 morts et 1400 kidnappés en 2 ans. C'est les bilans macabres donné par cette structure, donc je parle de la société civile de Beni, qui a exigé des enquêtes de la CPI. Alors on va prendre Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quel est votre avis, Félicien?
Oui, moi je comprends pas ce qui se passe. Nous pleurons de morts à l'est du pays. Nous sommes en train de chercher des solutions. Et on ne trouve pas de solution. Quand une ONG saisit la Cour pénale, et il y a contestation du côté des officiels qui contestent que cette ONG puisse poser les problèmes. Est-ce que nous avons besoin de savoir qui doit poser les problèmes, ou bien ce qui nous intéresse, la solution qui viendrait de ce côté-là? Si la CPI dit que lui n'a pas les moyens d'enquêter, c'est pas un problème, nous allons continuer à chercher des solutions, des autres voies. Mais comment est-ce que le ministre peut dire non, c'est l'État qui devrait saisir la cour pénale? Et pourquoi alors l'État n'a jamais saisi la Cour pénale depuis tout ce temps? Que l'État trouve normal ce qui se passe à l'Est ou comment? Alors que nous sommes en train de chercher des voies de moyens. Je voudrais rappeler au ministre que l'évêque de Simon Tutu de l'Afrique du Sud avait dit, il a dit, si tu es neutre en situation d'injustice, c'est que tu as choisi le côté de l'oppresseur. Alors nous devons comprendre que notre État qui devrait intervenir, d'après le ministre, je trouve que c'est pas utile, parce qu'il approuve ce que l'oppresseur est en train de nous faire.
Est-ce que vous pensez comme les autres que c'est quand même, nous sommes dans une situation quand même très confuse, hein, et que même l'enquête en question ne sera pas très facile?
Ah oui, l'enquête ne sera pas très facile parce que nous comprenons maintenant que nous-mêmes les Congolais nous sommes impliqués dans cette affaire et nous n'allons pas aider la CPI à mener une bonne enquête. Mais que si la CPI paix arriver malgré que nous sommes nous-mêmes cause à ce problème. Donc, si elle peut arriver, si la ce pays peut arriver, c'est la solution pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont perdu des membres de famille, et pour cette insécurité qui règne à l'Est. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que Congolais, qu'on arrête avec cette situation. Donc, la solution peut venir de n'importe où pourvu que nous soyons en paix.
Voilà, on va prendre un auditeur qui est à Lubumbashi. Merci beaucoup, hein, Félicien. On va prendre Kalija de Lubumbashi. Kalija, bonjour.
Bonjour, bonjour. Je voulais intervenir là pour dire ceci. Mais l'église là qui a déposé plainte, qui craint que la CPI mène les enquêtes, a pleinement raison. Parce que nos parquets ici, nos juridictions ici, dès que vous déposez la plainte, s'il n'a pas l'argent, en tout cas, on ne fera rien. Donc ça prouve que la justice est vraiment pour les riches. Donc, des greffiers aux magistrats, si vous n'avez vous déposez rien, vous n'avez pas l'argent, personne ne peut mener les enquêtes. C'est pourquoi vous allez voir dans les parquets, il y a plus de 1 million, beaucoup de plaintes déposées par les pauvres. Mais non, il n'y a pas de suite. Quand vous partez là-bas, on vous dit que vous n'avez pas déposé l'argent. Alors, tous les malheureux là, des bénis, qui n'ont rien, qui n'ont pas l'argent, qui sont en bourse. Si déposer des plaintes comme ça dans nos juridictions sans l'argent, on peut bien faire.
Oui, mais Kalinda,
l'international est là pour défendre les peuples pauvres.
Mais Kalinda, nous avons également des juridictions qui sont compétentes pour gérer ces genres de crimes, et après plusieurs réformes que nous avons connues au niveau de la justice.
Non, il y a ces filles de ces journalistes. Les juridictions nationales sont aussi compétentes à même titre que la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale peut poursuivre comme les juridictions aussi peuvent poursuivre. C'est au choix, ce n'est pas obligatoirement qu'il faut seulement la Cour pénale internationale, non.
Voilà. Alors, on va, comme l'a dit le prédécesseur, il y a même Sylvain qui avait comparé la situation qui avait prévalu en 2003-2005 au niveau de l'Itouri à la situation d'aujourd'hui, montrer le caractère opportun de cette requête afin de trouver quand même définitivement une solution. C'est-à-dire, comme on avait, la CPI avait établi un mandat d'arrêt contre Thomas Lubanga, Mathieu Gougiolo et Germain Katianga, qu'on les fasse également pour les ADF Nalou et les FDLR. Mais une chose est vraie, que la difficulté serait maintenant que ces deux structures opèrent, on ne connaît pas le commandement.
Oui, c'est quoi? Parce que quand vous voyez la Cour pénale internationale, elle a d'abord pour intimider les auteurs intellectuels. Dans les cas sous examen, la Cour pénale, elle a d'abord pour chercher les auteurs intellectuels. Parce que pour qu'il y ait les massacres comme ça, il y a tous les gens qui sont en amour. Les gens qui sont à Guinée, les gens qui sont dans le pays, qui financent tout. Mais mon problème, c'est quoi? Mon problème, je voulais savoir pourquoi les gens aujourd'hui ne pensent, ne jugent pas la Cour pénale internationale. Pour démontrer que là, quelque part, les gens n'ont plus confiance à nos juridictions. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de gens sont corrompus. Les magistrats vraiment qui aiment beaucoup d'argent, les juges qui aiment beaucoup d'argent, dès que vous déposez la plainte, même si celui qui venait de commettre une infraction est là, on connaît son adresse, son identité. Dès que vous êtes pauvre, vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez rien faire. Monsieur le journaliste, défendez un peu dans le passé pour vérifier ce que je vous dis. Mais le point, c'est vrai, avec les labarres, tous les pauvres qui sont là, dès qu'ils déposent la plainte, même s'ils savaient que non, l'hôtel intellectuel, c'est tel monsieur, l'hôtel mathématique, c'est tel monsieur, dès que vous n'avez pas l'argent, vous êtes pauvre. En tout cas, les juridictions congolaises ne peuvent rien faire. Ne peuvent rien faire. Là, je vous dis, c'est vrai, on ne peut pas vous aller la face. C'est vrai. Nos parquets, nos juridictions, elles là pour soutenir les riches. Dès que vous êtes pauvre, ils ne peuvent rien faire.
Merci, merci.
C'est pourquoi les gens préfèrent maintenant aller à la Cour pénale internationale.
Merci beaucoup, monsieur Kalinda, d'avoir appelé la voiture. Voilà, on va accueillir Maître Adrien, qui est à Canada. Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, Gérard Lungembo. Bonjour à tous les amis, les auditeurs.
Et quel est votre avis?
Oui, merci de l'opportunité, Gérard. Je pense que je salue d'abord l'initiative de nos amis de la communauté. C'est vrai que sur le plan procédural, il y a des petits soucis. C'est vrai que moi, j'aurais souhaité que nos amis là puissent peut-être mettre tous les éléments de preuve à la disposition du gouvernement congolais pour que ces derniers puissent à son tour saisir la CPI pour donner un peu une certaine valeur à cette requête. Parce que j'ai peur pourquoi ceux qui opèrent à Beni
mais on est déjà, disons, parce que le bureau du procureur affirme détenir des informations sur les tueries de Beni.
Exactement. Il a des informations. Je vais vous dire pourquoi j'ai une certaine crainte. Parce que l'expérience en cette matière me fait dire que lorsqu'il y a toujours deux sons de cloche diamétralement opposés, c'est-à-dire entre le bureau de la CPI et l'État sur lequel le massacre s'est déroulé, cette enquête-là n'a pas vraiment une longue durée. C'est comme ça qu'on appelle les deux parties pour qu'ils puissent collaborer, c'est le procureur et l'État. Mais dans le cas sous examen, il y a une certaine opposition du gouvernement congolais qui estime, dans un premier temps, bon, avec raison, qu'il serait d'abord souhaitable que la justice congolaise puisse d'abord faire son travail, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait des audiences foraines qui se tenaient avec les juridictions militaires. De ce côté-là, on a eu à condamner certains coupables.
Oui, Maître Abouya, nous gardons un peu en ligne, parce que là, on nous fait signe qu'il y a Margot Tedesco de la CPI qui est en ligne, qui nous a rejoint, qui est d'ailleurs de suivre ces débats. Madame Margot, bonjour.
Oui, bonjour. Je suis donc Margot Tedesco, responsable de la sensibilisation au bureau extérieur de la CPI.
Oui. Alors Margot, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'après avoir suivi de près les événements de Beni et aussi la requête formulée par la société civile de Beni, et que le bureau du procureur détient déjà des informations sur les tueries?
Alors, le bureau du procureur a reçu des informations, notamment de la société civile, mais pas seulement, concernant des crimes qui auraient été commis à Beni dans le territoire de Loubero. Le procureur a rencontré la société civile au mois de mai. La société civile voulait notamment sensibiliser le bureau du procureur sur ce qui se passait dans ce pays et dans cette région de manière particulière. Cette rencontre entre le bureau du procureur et la société civile s'inscrit dans le cadre de série d'échanges que le bureau du procureur a toujours eu avec les organisations de la société civile. Il s'agit donc d'une rencontre qui relève de cette approche, de l'approche du bureau du procureur, qui consiste à toujours être à l'écoute d'une entité ou d'une organisation qui souhaite s'adresser au bureau du procureur. Toutefois, je voulais quand même clarifier, et parce que j'ai entendu peut-être il y a quelques confusions par rapport au mode de saisine de la CPI, c'est que la société civile ne peut pas saisir la CPI. Il y a trois modes de saisine. Le premier, c'est un État. Un État qui défère au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis. Et ceci a été des cas notamment de la RDC, de l'Ouganda, du Mali, de la Centrafrique deux fois, de l'Ukraine et de la Palestine. En RDC, la RDC a saisi la CPI en 2004 et les enquêtes se sont ouvertes en juin, quelques mois après. Le deuxième mode de saisine de la CPI, c'est le procureur qui ouvre une enquête de sa propre initiative. On appelle ça en termes juridiques proprio motu. Et ceci avec l'autorisation de la chambre préliminaire. Et ceci a été le cas notamment du Kenya, de la Côte d'Ivoire et de la Géorgie. Enfin, le troisième mode de saisine est par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut déférer au procureur une situation. Et ceci, ça a été le cas pour le Darfour et la Libye, qui sont des États non partis, je le rappelle, de la CPI. Donc, c'est vraiment ça que je voulais clarifier, parce que j'ai l'impression qu'il y a une confusion.
Oui, Margot. Oui, Margot, vous l'avez, lors de votre dernière intervention à Radio Capi, vous avez affirmé que le bureau du procureur et la procureure avaient rappelé qu'elle surveillait des très près la situation à RDC. Donc, on peut dire, il n'y a pas que la question de Beni qui est aujourd'hui sur la table, mais il y a aussi toute la situation en général.
Bon, le Le procureur l'a rappelé à plusieurs occasions que son bureau surveillait de très près la situation en RDC. Je vous rappelle, la RDC, le gouvernement de la RDC, l'État de la RDC, a saisi la CPI en 2004 pour que la CPI vienne faire des enquêtes. Il y a eu, comme vous le savez, plusieurs mandats d'arrêt, plusieurs jugements à ce jour, et actuellement il y a encore un procès qui est en cours, celui de Bosco Taganda pour des crimes commis en Ituri. La déclaration du bureau du procureur, notamment du 23
septembre
dernier, a juste rappelé que le procureur surveillait de très près la situation de la RDC.
Et c'était en rapport avec le dernier événement, la récente violence survenue à RDC de 10 avril 20.
Oui, oui, et elle rappelait, le procureur rappelait à tous et à toutes que son bureau surveille avec une extrême vigilance la situation sur le terrain. Le bureau du procureur également rappelait toutes les parties potentiellement impliquées et tous les acteurs congolais, appelait au calme et à la retenue et à s'abstenir de toute violence. Elle appelait également tous les acteurs, et peu importe leur qualité officielle ou affiliation politique de tous bords, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir la commission de crimes et d'actes de violence.
Voilà. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont envoyé des messages pour dire, ben voilà, est-ce qu'on est déjà à l'étape d'une enquête préliminaire?
Non, pour le moment, de toute façon, la RDC est un pays en situation où il y a déjà des enquêtes. Donc, on n'est pas à l'étape d'enquête préliminaire, enfin, en proprement parler. Le bureau du procureur a reçu des informations de la société civile, et je rappelle encore une fois que toute personne, que ce soit la société civile ou individu, peut envoyer des informations sur des crimes qui seraient commis et qui pourraient être de la compétence de la CPI au bureau du procureur. Toutefois, il est important de rappeler, c'est souvent oublié, mais la CPI n'est pas là pour remplacer les tribunaux nationaux. Elle ne se substitue pas au système national de justice pénale. Elle en vient en complément. C'est le système de complémentarité. C'est-à-dire que la CPI ne peut enquêter et, lorsque cela se justifie, poursuivre et juger des personnes que si l'État concerné n'a pas ouvert d'enquête ou se trouve réellement dans l'incapacité de le faire ou n'a pas l'intention d'agir. C'est que dans ces cas-là que la CPI pourrait éventuellement, et encore une fois, le cas échéant, et si ces crimes sont de la compétence de la CPI, peut éventuellement ouvrir des enquêtes.
Voilà, merci beaucoup Margot Tedesco pour toutes ces informations. Nous allons poursuivre la parole aux auditeurs encore avec vous, Maître Adrien. Vous êtes encore en ligne?
Oui, je suis en ligne hier.
Voilà, vous avez suivi, disons, la responsable de la sensibilisation au bureau extérieur de la Haye, Margot Tedesco, qui a précisé d'ailleurs aujourd'hui le principe de la complémentarité que régit la CPI. En fait, toute personne peut donner des informations à la CPI, mais il y a un mode de saisine, il y a l'État, il y a la procureure et puis les conseils de sécurité.
Oui, je pense qu'elle a porté tout simplement de l'eau dans mon moulin, parce que ce fait que je disais pour déplorer d'abord donc la procédure, mais néanmoins, j'ai toujours pensé, parce que lorsque nous suivons ce que madame venait de dire, il y a une certaine crainte pour la collaboration, comme je le disais, mais moi, j'ai toujours proposé, au lieu que tout le monde puisse regarder sur la CPI, il serait mieux que les efforts soient conjugués pour saisir le Conseil supérieur, donc la communauté internationale, afin que dans ce pays où il y a eu autant de massacres, autant de morts, qu'on puisse créer tout simplement le tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, comme on l'a fait avec le Rwanda, avec l'ex-Yougoslavie, avec la Sierra Leone. C'est ça, vraiment la solution passe au, si nous regardons la CPI a beaucoup de réserves, c'est vrai, c'est statutaire, parce qu'elle ne peut pas venir en opposition avec l'institution de l'État. Madame l'a dit très bien qu'elle travaille
en complémentarité avec la justice de cette nation-là. C'est là que moi, j'ai toujours dit, tant qu'il n'y aura pas vraiment un tribunal spécialisé pour qu'on puisse réprimer tous les crimes commis dans ce pays, non seulement à Beni, mais dans d'autres coins aussi, vraiment, ça sera difficile pour que ce genre de crimes puissent cesser dans notre pays.
Voilà, merci beaucoup, Maître Adjia. Alors, Maître Sandville, vous êtes avec nous, Al-Mbagie?
Oui, Monsieur Gilles, je suis avec vous. Bonjour d'abord, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Quel est votre avis?
Eh, Monsieur Gilles, moi je dirais que la société civile, on peut même la féliciter, quand même le mode de saisie n'a pas été respecté, mais quand même elle a contribué à l'information, puisque la madame la procureure a besoin des informations viables et fiables, avec de faits probants. C'est-à-dire que elle qui vit au niveau de Beni, à sa requête là, il y a ajouté, il y a joint des faits, des preuves matérielles, soit disant qu'il y a eu des morts, il y a eu ça, il y a eu des exécutions, il y a eu des faits qui sont constitutifs des crimes contre l'humanité. Donc là, c'est madame la procureure de statuer sur les cas pour voir si elle peut se saisir d'office ou pas, quand bien même les mots de saisine viennent d'être explicités par madame chargée de la sensibilisation et de la CPI. Mais si nous attendons l'État congolais, aussi longtemps que c'est l'État congolais qui est d'abord pris comme coupable, l'État congolais ne se plaindra jamais, ne saisira jamais cette cour pénale internationale. Nous devons compter seulement sur la CPI, madame la procureure, puisqu'elle est dans ses prérogatives de se saisir d'office et de faire des enquêtes. Comme les enquêtes ont déjà commencé depuis 2004, j'estime que la Cour pénale internationale, madame la procureure, est bien placée pour poursuivre ces faits-là. Puisque si la Cour pénale internationale ne se saisit pas de ces faits-là, ça va continuer de les tueries vont exister et ça va continuer. Il n'y a pas longtemps le cas de Kinshasa, il n'y a pas longtemps le cas de Lubumbashi, il y a même le problème des pygmées au niveau de Kabale et consorts là-bas. Mais heureusement, notre justice est occupée de mais la situation est telle. La population n'a plus confiance à cette justice. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas de juges, nous n'avons pas de magistrats capables. Et dans le méandre là où travaillent ces juges-là, il y a quand même une certaine interférence de notre politique dans cette justice-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons que les sabres soient dans cette Cour pénale internationale. Parce qu'avec cette Cour pénale internationale, même les chefs de l'État de d'autres pays africains de paix de ce monde ont peur. Même les ministres, ils ont peur, puisqu'à ce moment-là, la population qui se voit un peu coincée, qui se voit un peu asphyxiée par la manière violée de notre justice, sera un peu ressaisie et trouvera quand même une certaine cause dans tout ce qui est fait comme exaction. Nous ne comprendrons pas comment est-ce que ces faits sont récurrents au niveau de Beni. L'État congolais ne s'est jamais saisi de ce dossier-là pour essayer un peu de parier cette population. Pas de sanctions, d'impunité. Lorsqu'il y a des faits pareils qui se déroulent, on déplace les responsables de là et les responsables sont déjà commis, mais l'État reste toujours impossible à ces faits-là. Et c'est pour cela que je souhaite que cette Cour internationale, la madame la procureure, puisse aider sérieusement cette population congolaise afin de les rétablir dans leur droit. Et que, tout ce que vous savez, monsieur Gilles, dans notre constitution, la vie humaine est sacrée et nous sommes signataires de beaucoup de chartes dans ce sens-là. Et la Cour pénale internationale se saisit de ce fait-là.
Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir soutenu donc l'option de voir la Cour travailler librement. Donc, parce que c'est dans leur prérogative, parmi les mots de saisine, le procureur peut saisir de cette affaire pour établir les responsabilités. Merci beaucoup, Maître Sonville. Alors, Maître Jean-Paul, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Bonjour, Julien. Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, après avoir écouté et suivi de près vos prédécesseurs, quel est votre avis par rapport à cette thématique?
Bon. Tout a été dit par mes précédents, mais il y a quelque chose que je voulais ajouter. Par rapport à l'intervention du ministre des médias, lorsqu'on parle de la souveraineté d'un État, le premier élément, c'est l'armée, avoir une armée forte. Mais vous allez voir à chaque fois qu'il y a un marisme, c'est qui la faiblesse, le marasme qui est en train de caractériser l'armée congolaise. Et aujourd'hui, la CPI, à laquelle nous faisons membre, veut se saisir d'office avec une enquête indépendante de la justice congolaise. Vous voyez, la gouvernance de M. Kabila avec la CPI, tu veux, n'est-ce pas, entraver cela. Moi, je ne trouve pas ça important. C'est mieux de laisser la CPI faire son travail, en toute son indépendance.
Non, non, mais j'en pense, jusque-là, bon, je ne sais pas quelle entrave vous parlez. Le porte-parole du gouvernement n'a fait que rappeler le mode de saisine de la Cour, et Mme Tedesco venait d'ailleurs de revenir sur ça, pour dire que voilà, ce n'est pas la société civile qui a cette prérogative de pouvoir saisir la Cour pénale internationale, mais c'est plutôt des informations qu'on apporte à la Cour pénale internationale.
Nous savons très bien les jeux de la majorité présidentielle. Nous savons très bien les discours de la mère Mene, tout ce qu'il a toujours.
Voilà, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Paul. On a pris assez de temps. Merci. Merci à vous tous ceux qui avez participé à cette émission et merci à tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous ont captés depuis Nyunzu par le biais de la radio communautaire de Kalemie avec Prince Munga Baunda et à vous tous qui nous avez suivis également à l'étranger. Merci pour le message qui nous a été déposé sur notre page Facebook. Donc on prend rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro. Mais d'ici là, on dit également merci à Hippolyte Kapanga qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierre Lamégie. Je lui fais un bon mot d'être au standard. J'ai Lungembo Labung Angie a eu le plaisir de coordonner et présenter cette émission sous la supervision de Martin Sebou Jangui. À très bientôt.